Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
10 millions de personnes affectées, 500 000 habitations détruites. Les dégâts du cyclone Amphan sur les côtes de l'Inde et du Bangladesh sont considérables. Le bilan humain de 84 victimes risque de n'être que provisoire et beaucoup là-bas ont tout perdu, vous l'entendrez. La réouverture des commerces et restaurants aux États-Unis freine quelque peu l'aggravation du chômage dont le niveau cumulé au cours des deux derniers mois reste extrêmement élevé. Mais le président Trump veut rester optimiste. Et puis, au moment où des navires de guerre américains font de dangereux ronds dans l'eau en mer des Caraïbes, le Venezuela célèbre l'arrivée prochaine de pétroliers iraniens pour pallier la pénurie du pays en hydrocarbures.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
84 personnes sont mortes des suites du passage du super cyclone Amphan. 12 personnes au Bangladesh et 72 autres dans la région indienne du Bengale, la plus durement touchée. C'est le cyclone sans nul doute le plus puissant dans cette région depuis 21 ans et dans la région orientale de l'Inde également. Il a laissé beaucoup d'habitants des campagnes sans eau courante ni électricité, voire même souvent sans toit. Or, ces habitants modestes n'ont souvent plus d'argent pour réparer leur maison à cause de la crise économique liée là aussi au Covid-19. Notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi, a parlé à une de ces personnes sinistrées. Il s'appelle Bashkar Pramanik et il habite à Tamluk où le cyclone a frappé très fortement. Voici son témoignage.
Je n'ai jamais entendu une tempête aussi forte. Au début, le vent venait du nord, puis il a tourné dans toutes les directions, dans un vacarme terrible. C'était tellement effrayant que je ne pensais pas que je serais encore en vie pour voir la lumière du jour. Pendant la nuit, mon toit en amiante s'est envolé et tout le premier étage a été inondé. C'est là où se trouve ma chambre. Cela coûtera plus de 35 000 roupies pour le remplacer, environ 420 euros. Or, cela fait 2 mois que je ne travaille pas à cause du confinement. Je n'ai donc pas de revenus et je ne sais pas si j'aurai du travail quand l'activité reprendra. Je ne pense pas avoir de l'aide du gouvernement ou d'autres villageois, car tout le monde est dans la même situation. Donc en attendant, nous devrons apprendre à vivre sans toit.
Propos recueillis par Sébastien Farsi, notre correspondant régional. 2,4 millions de personnes se sont inscrites au chômage la semaine dernière aux États-Unis, un chiffre important mais en recul par rapport aux semaines précédentes et qui reste toutefois inquiétant. La réouverture progressive de l'économie américaine n'a pas encore débouché sur un véritable rebond de l'activité qu'attendait le président Trump. Correspondance à Washington, Anne Corpet.
En 9 semaines, 38 600 000 Américains se sont inscrits au chômage. Un record historique sur une période aussi courte. L'augmentation se poursuit, mais elle ralentit. Avec 2 400 000 nouveaux inscrits, on est loin du pic observé lors de la dernière semaine de mars, où près de 7 millions de personnes avaient déposé une demande d'allocation. Donald Trump mise sur un rebond rapide de l'économie. Il évoque une période de transition vers la grandeur et assure que l'année prochaine sera phénoménale, mais les experts sont plus circonspects. Beaucoup d'emplois sont définitivement perdus. De nombreux petits commerces, notamment dans le secteur de la restauration, ont été contraints de déposer leur bilan et les Américains, encore inquiets par une pandémie toujours présente, ne sont pas prêts de renouer avec une consommation effrénée. Pour les chômeurs, la situation déjà difficile risque de se compliquer cet été. Ils percevront jusqu'en juillet une aide supplémentaire de $600 par semaine voté par le Congrès. Les démocrates souhaitent prolonger ce dispositif, mais les républicains s'y opposent. Anne Corpet, Washington, RFI.
Donald Trump qui a annoncé jeudi le retrait américain du traité ciel ouvert, Open Skies en anglais, qui permet de vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays signataires, en accusant la Russie de l'avoir violé. C'est le troisième accord international dont le président américain décide de retirer les États-Unis après le traité sur le programme nucléaire iranien dénoncé en 2018 et le traité INF sur les missiles terrestres mètres de moyenne portée, abandonné, lui, en 2019. Et on a appris dans la soirée la tenue d'une réunion d'urgence à l'OTAN ce vendredi, après cette décision américaine sur le traité Open Skies. Washington, qui par ailleurs met en garde contre une loi sécuritaire très déstabilisatrice, je cite, à Hong Kong, au sujet d'un projet de loi dite sur la protection de la sécurité nationale, un texte qui interdit la trahison, la sédition et la subversion, autrement dit, un dispositif favorable à Pékin qui accroît sensiblement ses pressions sur le petit territoire rétrocédé par le Royaume-Uni en 1997.
Le journal en français facile.
L'Iran à la rescousse de la République bolivarienne, autrement dit le Venezuela. Des pétroliers iraniens devraient arriver ce week-end au Venezuela pour livrer de l'essence et d'autres produits pétroliers à Caracas, alors que le pays, c'est difficile à croire, mais est en proie à une pénurie d'hydrocarbures depuis plus de 2 mois maintenant. Les deux pays appellent les États-Unis, dont une flotte est présente dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, à ne pas entraver la livraison. Explication sur place, Benjamin Delisle.
Ce sont 5 pétroliers iraniens qui voguent actuellement en direction des Caraïbes. Une livraison qui réjouit le président du Venezuela car le pays est à court d'essence depuis la fin du mois de mars. Nicolas Maduro attribue cette pénurie aux sanctions américaines qui compliquent l'achat d'essence à l'étranger et remercie donc l'Iran pour son soutien. Ce rapprochement, Washington le voit d'un mauvais œil car les deux pays sont visés par des sanctions. Le leader de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, a lui aussi condamné cette livraison, payée, selon lui, avec de l'or extrait illégalement des mines du sud du Venezuela. Tout cela fait craindre à Caracas que les États-Unis fassent tout leur possible pour bloquer les navires iraniens, notamment grâce à une importante flotte militaire déployée au large des côtes vénézuéliennes début avril pour une opération antidrogue dans les Caraïbes. « Nous sommes prêts à tout et à tout moment », a prévenu Nicolas Maduro. Son ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a assuré que les tankers iraniens seraient escortés par l'armée dès leur entrée dans les eaux vénézuéliennes. L'Iran a aussi averti que Washington serait responsable des conséquences qu'entraînerait un éventuel blocage.
Benjamin Delisle. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, 43 ans, hospitalisé à Moscou ce jeudi pour des suspicions de Covid-19. C'est ce que rapportent en tout cas les agences russes. Dernier cas en date dans la Fédération de Russie d'un haut responsable infecté par la maladie. Rappelons que le dirigeant tchétchène avait récemment menacé de limoger des personnels soignants qui se plaignaient du manque de matériel et de moyens pour lutter contre la pandémie. L'état de Ramzan Kadyrov serait en tout cas stable. Et puis, Russie, toujours, la production industrielle de la Russie a chuté de 6,6% en avril sur un an, conséquence du confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus, après déjà un brusque coup d'arrêt en mars. Le mois d'avril avait été décrété entièrement chômé, je vous le rappelle, et la production industrielle s'était effondrée de 9,2%. Direction maintenant l'Espagne, ou plus précisément la Catalogne. À Barcelone, depuis mercredi, les promenades et activités sportives sont de nouveau autorisées sur les plages, mais pas question de se prélasser au soleil. Pourtant, certains bravent l'interdit. Il faut dire qu'avec 27 degrés Celsius dès 9h du matin, la tentation est grande, Élise Gazangel.
Depuis mercredi, la plage de Barcelone n'est plus complètement déserte. Les habitants peuvent désormais s'y balader ou faire du sport. Et même si la baignade récréative ou le bain de soleil sont toujours prohibés, ils sont quelques-uns à braver l'interdit en surfant sur l'ambiguïté des règles. Claudia Terstappen, jeune retraitée de 61 ans, sort à peine de l'eau.
Je suis venue ici en vélo et s'ils me demandent, je dirais que je m'entraîne pour un triathlon. Avec le vélo, nager et marcher.
À Barcelone, les sorties se font toujours par créneaux horaires étranges d'âge. Entre 6h et 10h du matin, les jeunes adultes sont autorisés à se balader et beaucoup ont mis leur réveil plus tôt pour revoir la mer, à l'image d'Andy Eury, qui ne souhaite pas donner son nom.
J'adore la mer, ça me donne une sensation de tranquillité. Évidemment, il y a le risque de l'amende, mais je le referai.
Pour le moment, la police veille surtout à ce que personne ne s'allonge trop longtemps sur le sable, car les distances de sécurité sont beaucoup plus faciles à respecter sur cette plage vidée de ses touristes. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
Et puis un mot du coronavirus avec ce bilan officiel. Plus de 5 millions de personnes dans le monde sont désormais touchées et la situation empire en Amérique latine. Les décès dus au coronavirus ont augmenté par exemple de 29% au cours des 24 dernières heures au Chili. C'est la fin de ce journal.